Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous.
Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Gérald Miller. Bonne année 2018, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous vous êtes un petit peu ennuyé de nos entrevues. Et c'est pour ça qu'on revient aujourd'hui, nous sommes vendredi le 12 janvier. Et mon invité, tout un monsieur, je vous le salue. Bonjour Gérald, comment vas-tu?
Bonjour à toi Martin et bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au projet, parce que je sais que, je le répète souvent, mais souvent on a l'impression de connaître les gens, mais on les connaît un peu en surface, on les connaît un peu professionnellement parlant, et c'est très bien, c'est fort intéressant. Mais j'aime ça, moi, des fois, aller un petit peu commencer du début, hein? Puis je sais que ta jeunesse, il y en a qui la connaissent, la raison de ton problème de vision, mais je pense que je suis sûr que je vais en rejoindre d'autres aussi avec...
qui vont apprendre des choses.
Voilà. Alors, la première question, où es-tu né?
Formellement, je suis né à Montréal.
Ah, okay.
Mais c'est formel parce que l'hôpital où je suis né était à Montréal. Mais 3-4 jours plus tard, j'ai été rapatrié à Sainte-Rose, au nord de l'île de Laval. Et j'ai vécu là jusqu'à 19 ans. Et c'était une très ancienne maison, construite en 1799.
Oh.
Et c'était sur le bord de la rivière des Mille-Îles. Le matin, le soir, n'importe quand dans la journée, il me faisait toujours plaisir d'aller jouer sur le bord de la rivière ou tout simplement aller passer, surtout le soir, un petit temps de recueillement parce qu'il y avait un magnifique petit marais là avec des nymphéas, des jaunets, bref, des nénuphars, des iris des marais, des quenouilles et un bon troupeau de grenouilles.
Donc, beaucoup de nature là à contempler.
Ah, et c'était à 3 minutes de la maison.
OK.
À pied.
À pied. Donc ça, tu aimais ça, aller voir ça, aller jouer...
J'ai toujours aimé la nature, de toute manière.
OK.
Si j'avais conservé ma vision, j'aurais été un amateur de la forêt. Je le suis quand même, mais étant aveugle, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas de trottoir dans le bois. Hein?
Ils n'ont pas construit ça encore.
Ils n'ont pas pensé à ça. Mmh.
Et forcément, hein, on se contera pas d'histoire aujourd'hui. Le fait de pas avoir de vision, il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent, forcément.
Ben, forcément. Par contre, l'avantage, c'est que aujourd'hui, ben là, on est parti de 1952, puis on est rendu en 2018, mais aujourd'hui, je fais beaucoup de marches dans la forêt avec... un guide qui me décrit un peu les choses également. Puis, bon, ça compense.
OK. Mais revenons à ta jeunesse, disons. Bon, tu es né à Montréal, mais officiellement, ta famille, c'était à Sainte-Rose.
À Sainte-Rose, ben oui.
Et tu t'es né dans une grosse famille, toi, Gérald?
Le père, la mère... 4 garçons et la grand-mère qui demeurait avec nous.
OK, mais tous des garçons dans
4,
les enfants?
Ouais.
OK.
Ouais.
Et j'allais dire, aucun autre non-voyant, mais bon...
Non, absolument pas.
C'est ça. Et toute façon, toi...
Et moi-même, j'étais parfait voyant.
C'est ça, oui, oui.
j'ai fait des folies plus tard qui ont fait que j'ai perdu la vue, mais c'est plus tard, à l'âge de 13 ans.
Ça. OK, c'est à 13 ans. OK, c'est ouais. toute ton enfance jusqu'au début de l'adolescence, on pourrait dire, tu avais ta vision.
Je voyais parfaitement clair. Et c'est à 13 ans qu'en l'espace d'une microseconde, je suis devenu parfaitement aveugle. Mais il y a un autre aspect que je voudrais signaler ici. On y reviendra plus tard, mais je le signale ici, là. C'est que quand j'ai commencé l'école, à ma première journée d'école, c'est assez relax, la première journée d'école, et néanmoins, je reviens à la maison, puis je m'amuse avec les voisins, etc. Et là, dans l'enthousiasme, si je puis dire, je me passe la main droite à travers une vitre.
Hey.
Je me retrouve à ma deuxième journée d'école avec la main bandée jusqu'au coude. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à écrire à ce moment-là?
Ça va mal un peu.
J'ai appris de la main gauche.
Ah, OK.
C'est, j'ai appris à écrire de la main gauche, mais quand j'ai d'ailleurs gagné des prix d'écriture...
Ah oui? Oui? Avec la main gauche?
Avec la main gauche,
okay.
Qui n'est pas ma main naturelle
ouais,
pour écrire.
Ouais, ouais.
Mais quand les bandages ont été enlevés, tout ça, puis que c'était rétabli, là, on m'a demandé d'écrire de la main droite, mais c'était un réapprentissage. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours écrit de la main droite.
OK.
Sauf plus tard, mais je peux bien en parler tout de suite. Quand j'ai perdu la vue, ce qui est arrivé, c'est que c'est un contenant de verre dans lequel il y avait un mélange fumigène, et ce contenant de verre-là m'a éclaté dans la main.
Oh!
La main droite.
Bon.
Encore.
Bon.
Fait que là, je me suis...
Malédiction que la main droite, malédiction que le verre, forcément un peu.
Oui, ouais, le verre aussi, ça a marqué mon existence, dirait-on.
Mm-hmm.
Et ben là, je me suis enligné à l'âge de 13 ans sur des mois et des mois sans pouvoir me servir de ma main droite parce qu'elle était vraiment dans un piteux état. Alors, je me servais essentiellement de la main gauche, encore une fois. De telle sorte que, assez bizarrement, souvent, j'ai pris des habitudes avec le temps comme ça, là. Et les gens me disaient, ah, toi, t'es gaucher. Non, 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 je suis droitier, mais je fais plein de choses de la main gauche.
C'est que les gens croyaient vraiment même que tu étais gaucher.
C'est ça.
OK.
Et encore aujourd'hui, étant donné que ma main droite ne s'est pas tout à fait remise et qu'il y a des doigts que je ne sens pas ou à peu près pas, ben il y a plein de choses que je fais de la main gauche. Et c'est pour ça qu'on me dit « Ah, toi, t'es gaucher. » Ben non, je suis droitier. Mais c'est compliqué.
Donc, l'accident a endommagé ta main aussi. Ça a eu des répercussions aussi à ce niveau-là.
Oui.
OK.
Tout du côté droit, le visage à droite, l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras, la main surtout, évidemment. C'est là où était la grenade, si on peut dire.
Mm-hmm.
Le seul endroit où j'ai été touché à gauche, c'est dans les yeux. C'est un gars chanceux, là.
Mais dans le droit aussi, forcément.
Ah ben oui, dans le droit aussi.
Ça fait que les deux.
Les deux. C'est ça. Mais c'est le seul endroit où j'ai été touché à gauche.
OK. Et là, bon, je sais que la question va paraître bête, mais je pose une question bête par émission, c'est sûr. Mais...
Vas-y!
À 13 ans, bon, que se passe-t-il après cette... il y a eu, j'imagine, un paquet de blessures à rétablir, mais bon, les yeux, ça n'est pas revenu.
Ça n'est pas revenu. C'est revenu un petit bout pendant 2-3 mois où je devais avoir 2 ou 3% de vision dans un œil.
OK.
Le droit. Mais ça n'a pas duré. Et au bout de quelques mois supplémentaires, j'avais plus rien et rien n'est revenu depuis. Bref, ma vision est égale à 0 depuis 52 ans.
OK. Et là, est-ce que tu t'en souviens de cette époque-là? Est-ce que...
Très bien.
Très bien. Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler un peu?
Certainement, j'ai aucun problème.
Alors là, bon, 13 ans, j'imagine que tu devais être au secondaire.
J'avais commencé les éléments latins.
OK.
C'était à l'époque du cours classique. Et le cours classique se donnait dans les écoles régionales. C'était pas réservé aux institutions religieuses qui chargeaient beaucoup d'argent. C'était disponible gratuitement dans les écoles régionales. Alors moi, j'avais commencé mes éléments latins jusqu'en avril où cet accident maudit est survenu. Et là, ben, les études ont pris le bord pour 6 ou 7 ans.
Oh, quand même!
Pendant lesquels j'ai fréquenté les hôpitaux plus que les écoles.
Là. Oui, parce que c'est une question de santé. Là. C'était une question de...
Oui, puis en même temps, il y avait pas mal de brasses camarades dans la fonction publique, puis des grèves du zèle, puis des ralentissements de travail, de telle sorte que quand j'attendais une place à l'hôpital qui était supposée arriver dans 2 semaines, ben des fois, je l'attendais 3-4 mois.
C'est ça, ça le ralentit beaucoup le processus.
Ça a allongé les délais.
OK.
Fait que le résultat, c'est que j'ai passé 6-7 ans à la maison, sans fréquenter l'école. Mais pendant ces années-là, j'ai beaucoup fréquenté la radio et la télé.
C'est que tu t'es instruit, j'imagine, autrement.
C'est comme ça que je l'interprète.
Mm-hmm.
Et surtout que on est là de 65 à 71, et là, il y a plein de choses qui se passent à la radio et à la télé. En fait, ça se passe dans le monde, là, dans le vrai monde, sur la vraie terre, mais c'est rapporté par les médias.
Oui.
La guerre du Vietnam.
Oui.
L'assassinat de Martin Luther King. L'assassinat de Bob Kennedy, toute l'affaire Nixon qui commençait, la guerre des 6 jours en 67 entre Israël et les pays arabes, enfin, nommez-les, là, et puis sans compter, évidemment, octobre 70 au Québec.
Oui.
Avec le FLQ, puis tout ça. Donc, c'était des années qui
grouillait
à travers les médias, était riche d'enseignements.
Mm-hmm.
C'est beaucoup comme ça que j'ai compensé.
OK. Mais là, plus tard, j'imagine que, bon, parce que tu te dis, bon, il y a eu 6-7 ans, mais après ça, tu es retourné aux études? Comment ça s'est passé pour toi?
J'étais dans le bureau du médecin qui me proposait une autre intervention. Là, il s'agissait d'ouvrir l'œil au complet, puis d'aller voir la rétine en arrière, puis j'ai dit, au fait, quelles sont mes chances que ça marche? Oh, il dit, peut-être 1 sur 1 million.
Oh!
Ben, il dit, tu sais, mon jeune, j'ai jamais vu ça dans toute ma carrière de médecin. Bon, dès lors, ma décision était prise, on abandonne la médecine, là, puis on va essayer de vivre avec. Alors, c'est comme ça que j'ai obtenu une référence à l'Institut Louis Braille, parce qu'à l'époque, l'Institut Nazareth, c'était une autre institution, là, c'était oui. Pas fusionné.
Mm-hmm.
Alors, je suis allé à l'Institut Louis Braille pendant 1 an. Et là, je dois rendre hommage aux clercs de Saint-Viateur, qui m'ont accueilli d'une manière, je dirais, avec beaucoup d'ouverture. Et en plus, comme il s'agissait d'une petite école, ce qui m'a été possible, c'est de faire, en un an, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, en un an. Puis pendant l'été, je suis allé faire une mise au point au collège Lionel Groulx en mathématiques, parce que à l'Institut Louis Braille, les mathématiques, c'était pas si fort que ça.
OK.
Alors, je suis allé faire une mise au point pendant l'été, qui m'a sauvé le secondaire 5. Et donc, un an plus tard, j'entre au cégep après avoir rattrapé 4 ans en une seule.
Hey, c'est une méchante année, ça, là.
Ce fut une grosse année. Honnêtement, j'ai travaillé pas mal, surtout qu'il fallait que j'apprenne le braille. Braille intégral, braille abrégé. En anglais, le braille intégral, le contracted braille, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mm-hmm. Le braille mathématique.
Oh, tout qu'un programme. Mais là, tu parles beaucoup des mathématiques. Mais
je me suis ennuyé un petit peu. C'est que j'ai pris 6 mois de piano avec le regretté Jacques Larose.
Mais oui, le regretté Monsieur Larose. Mais tu parlais des mathématiques, tu disais que c'était pas très fort. Toi, c'était quoi ta perception des mathématiques? T'étais bon en mathématiques?
J'ai toujours été excellent en mathématiques.
D'accord.
Toujours. Je n'ai pas le don des langues, sauf la langue française, mais j'ai le don des mathématiques. Et moi, on m'explique une chose, on met une formule au tableau, voilà, c'est appris, ça s'effacera jamais. Alors que... Il y a des gens, j'en suis sûr, qui nous écoutent, disent « Ah, les mathématiques, ce que c'est barbant! »
Ouais, juste la personne devant toi en ce moment, c'est à peu près ça. Je sais pas le refaire aujourd'hui, si ça serait mieux, mais ouf, il y avait beaucoup de choses abstraites là-dedans, moi.
Mais moi, les mathématiques, j'ai toujours... Il m'est arrivé, au fil des années, d'avoir 2 étudiants en cours privé. Mais moi, je suis aveugle, là. Eux, ils étaient voyants. Puis il y en a une, notamment. Je lui ai donné des cours de maths pendant 4 ans, par téléphone.
Mmh.
Alors, je lui disais, puis ça, c'est 2-3 fois par semaine, là, 2-3 soirs par semaine, je lui disais, écoute, lis-moi ton livre, je vais te l'expliquer.
C'est comme ça que vous fonctionniez.
C'est comme ça que je fonctionnais.
Elle te lisait son livre, toi tu y interprétais le...
Puis bien souvent, avant qu'elle ait terminé une page, j'avais compris de quoi il était question, puis je pouvais lui expliquer.
Oh mon Dieu, hey, c'est fort en tabarouette.
Non, les maths, c'est ma force.
OK.
J'y peux rien. Désolé, Martin, si tu veux suivre des cours privés...
Je pense que je vais vivre sans... Je vais être capable de survivre, je pense.
Avec ce handicap-là.
Ouais, un de plus. Hey, mais bon... Je vais faire des sauts incroyables, mais bon, parce que on a beaucoup de choses à raconter quand même, là.
Ah, moi, je peux t'emplir 3 heures, il n'y a pas de problème. Mais c'est les gens à l'autre bout de la ligne, ils vont dire 3 heures, c'est un peu trop.
Ouais, il faudrait faire comme une première partie, puis une deuxième partie le mois prochain.
Ouais, ben, on verra.
Ouais, c'est ça. Mais, parce qu'on en parlait avant de commencer l'enregistrement, bon, là... Tu te retrouves non-voyant complètement. La médecine, on oublie ça. Les chances de réussite sont trop minces et tout et tout. Mais bon, je pense que tu t'es jamais arrêté à ça. Ça fait que tu as toujours continué à avancer. Mais j'aimerais ça qu'on parle... On parlait là des chiens guides tout à l'heure. Là, puis de ce que vous aviez fait pour... les droits de la personne, les règles pour concernant les chiens guides et tout ça.
Ouais. Ben moi j'ai fait mes tes études. Tantôt, quand on en parlait, on était rendu au cégep.
Oui.
Alors, j'ai fait mon cégep à Lionel-Groulx. C'est l'ancien séminaire de Sainte-Thérèse. Mais c'était cégep à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et dans les années 72-74, j'ai adoré mes années de cégep, je dois dire. Si on a le temps, on y reviendra. J'étais en sciences humaines option droit, parce que j'avais déjà choisi que je voulais m'en aller en droit.
Et ça, c'était venu comment, ça? C'était-tu...
J'ai parlé tantôt de ma formation radiophonique et télévisuelle oui. dans les années 60, à la fin des années 60. Et là-dedans, il y avait des tas de questions de droit qui se posaient, notamment les droits fondamentaux, des populations dévastées par la guerre, l'espèce d'apartheid, c'est pas comme ça que ça s'est appelé, mais le racisme aux États-Unis, il y avait plein de questions de droit, et ça m'allumait beaucoup. J'ai toujours été épris de justice, et je sais bien que le droit et la justice, c'est pas exactement synonyme, on s'entend, là.
Mais il y a c'est des beaucoup, similitudes, quand même.
Ben, c'est proche. Mm. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers le droit. Donc, en 74, je quitte le cégep et je m'en vais à l'Université de Montréal, faculté de droit. J'étais assez fier de ça parce que je crois avoir été le premier aveugle accepté à la faculté de droit de l'Université de Montréal.
OK, c'est pas rien.
S'il y a des gens qui ont une information différente, ben communiquez-la à moi, là. Mais je pense que j'étais le premier. Et d'ailleurs, rien qu'à voir la réaction des profs de la direction, je pense que j'étais le premier. Ils savaient tellement pas quoi faire avec moi, là, ça.
Et somme toute, ça s'est bien passé?
J'ai terminé en 78 avec une belle licence en droit. Et j'ai essayé de faire le barreau, mais ça n'a pas fonctionné pour des raisons compliquées, là.
Je pense que tu en as parlé un peu dans d'autres entrevues, mais tu sais, il y avait tellement de livres à lire, puis tellement
essentiellement,
de documentation.
Essentiellement, je peux le décrire en une minute.
Oui.
À l'université, on commence un cours au mois de septembre, puis au mois de décembre, en droit en tout cas, il n'y a pas beaucoup de travaux en droit, c'est des examens. Alors, au mois de décembre, on a un examen. Mais moi, j'ai eu le temps de faire enregistrer mes livres, tout ça, puis d'étudier. Hein. Puis on recommence en janvier, puis il y a des examens fin avril. Même chose, j'ai eu le temps de faire enregistrer mes livres. Mais au barreau, c'est pas de même que ça marchait. On commençait au début septembre, et on recevait à peu près 4000 pages de texte. Et fin septembre, examen.
Et c'est impossible.
Puis après ça, on recommençait début octobre, 4000 pages de texte. Au bout de 4 semaines, un examen. Et ainsi de suite jusqu'au mois d'avril.
Tout le temps comme 4000 pages par mois.
Et le résultat, c'est que je recevais l'enregistrement de mes livres après l'examen.
Ben oui, je comprends.
Et...
Ça pouvait pas fonctionner.
Ça pouvait pas fonctionner. Ça pouvait pas. Et à l'époque, est-il besoin de le signaler, on est entre 78-79, là, à peu près. Il n'y avait pas d'informatique. Il n'y avait pas toute la techno qu'on a aujourd'hui. Si ça avait été le cas, ben, mon parcours eût été différent.
Mm-hmm. Tandis que là, les enregistrements, c'était quoi, sur des bobines? Non, c'était sur des cassettes. Là,
non, j'ai utilisé beaucoup la bobine, des grosses bobines 7 pouces. Là.
Mm-hmm.
J'ai utilisé beaucoup ça, mais j'ai utilisé aussi les cassettes parce qu'elles étaient arrivées quand même. Et les micro-cassettes pour prendre des notes en salle de classe. On pouvait... acquérir une petite machine de rien du tout, y glisser une micro-cassette, et là, on pouvait, c'est une technique que j'ai beaucoup pratiquée, en chuchotant tout près du micro, on pouvait prendre ses notes comme ça, là, puis ça dérangeait. Ça dérangeait personne, mais ça me faisait mes notes.
OK, c'était pas pour enregistrer le cours, c'était vraiment pour enregistrer ce que tu aurais écrit.
Non, il y a trop d'affaires plates qui se disent dans les cours. Après ça, faut les réécouter. Faut tout réécouter. Au complet. Là, c'est trop long. Non, moi, je prenais mes notes en chuchotant. En chuchotant, je prenais mes notes.
OK. Mais là, bon.
Fait que toujours est-il qu'après le barreau,
La tentative.
J'ai eu un échec. Ça m'a fait mal au cœur, honnêtement. Puis même si en réalité, c'était pas moi qui en étais responsable, ça m'a fait mal au cœur quand même.
Ça donnait quand même le résultat que tu pouvais pas
c'était impossible.
C'est ça.
C'était impossible, c'était invivable. Fait que là, ben, je me suis cherché de l'emploi ailleurs, puis j'en ai trouvé notamment en enseignement. Enseignement aux adultes.
OK.
Où j'enseignais français et mathématiques à des handicapés de la vue, à la CECM, là, qui était la Commission des écoles catholiques de Montréal. Aujourd'hui, CSDM, Commission scolaire de Montréal. Assez curieusement, CSDM, le D, c'est pour de.
Ben oui.
Bon. Après, on se demandera pourquoi les enfants possèdent mal leur français. En tout cas. Et donc, j'ai enseigné ça. Et j'ai enseigné le braille aux voyants. Ça, c'est une particularité.
Ben oui, quand même, là.
C'est parce qu'il faut imaginer que, je sais pas, si monsieur perd la vue, il est intéressé à apprendre le braille. Ouais, mais madame aussi, pour qu'ils puissent s'échanger, ben oui. Ne serait-ce que des mots doux. Puis si madame perd la vue, ben c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Puis il y a aussi des étudiants en éducation spécialisée, par exemple. À l'époque, ils n'avaient pas de cours de braille. C'est qu'ils venaient à la CSM, suivre mes cours. Puis il y avait toutes sortes de monde qui venait suivre mes cours de braille aux voyants. Puis j'ai fait ça pendant 4 ans.
OK. Et là...
C'est même moi qui a eu la chance, l'opportunité de former les profs itinérants de Montréal en braille.
OK.
Parce qu'il fallait qu'ils apprennent le braille, il fallait qu'ils soutiennent les enfants qui étaient en intégration scolaire. Là. Alors, ils voulaient apprendre le braille, fait que j'ai formé un groupe de profs au service du perfectionnement des maîtres. Et ben moi, j'avais déjà l'expérience d'enseigner le braille aux voyants. Là, et,
ouais, c'était pas plus compliqué.
Sauf quand est arrivé à un moment donné le code Nemeth, ils voulaient que je leur enseigne le code Nemeth. Je le connaissais pas moi-même. C'est que je me suis fait venir les volumes. Il y en avait 5. Fallait que je passe à travers. Heureusement que je suis habile en maths.
Ben oui, ça aide quand même.
Là. Ça aide, ouais, mais le code Nemeth, ça met une couche de plus de difficulté, là. Parce que il y a des affaires là-dedans, là. Ouf! Même moi, j'ai eu de la misère.
Moi-même, j'ai démissionné à un moment donné à cause du code des mutes. J'ai dit, je vais faire mes maths à la télévisionneuse. Puis c'est ça, j'ai
ça fait. Ça va être plus simple.
Hey, maintenant, arrivons au chien guide. Là. Moi, ça m'intrigue. Mira n'existait pas dans ce temps-là, je crois. Hein,
À la fin. Non, Mira, ça remonte à 81, je crois.
C'est 80, ça, début des années 80.
C'est ça. Alors que moi, j'ai eu mon premier chien guide en 75.
Ah, quand même, hein?
Alors, à l'époque, ben, on pouvait aller à divers endroits aux États-Unis, mais les gens que je connaissais, moi, allaient à Guide Dog Foundation, Long Island, New York.
OK.
Fait que c'est là où je suis allé pour mon premier chien.
Donc, forcément, un chien anglophone.
Ben, il parlait pas beaucoup. Mais il entendait.
Oui.
C'est au moins ça. Mais c'est, ce qui est bizarre, c'est que j'avais un chien qui comprenait des mots anglais. Entendu que les chiens comprennent pas le sens de la langue, là. Faut s'entendre.
Alors, c'est sûr.
Ils n'ont pas de doctorat en philosophie, là. donc, j'avais des chiens qui comprenaient des mots en anglais. Mais moi, les nouveaux mots, pourquoi est-ce que je lui montre pas en français ce que j'ai fait? Alors, ça faisait des chiens bilingues.
Ah, bon.
Je me suis dit, quand même, c'est mieux qu'à Toronto, hein.
Mais là, si on se reporte en 1975, bon, Mira n'existait pas. Ceux qui avaient des chiens au Québec, ils avaient été les chercher à New York ou en tout cas à
Rochester. Il y avait Seeing Eye Dog qui. Il y avait une dizaine de centres aux États-Unis.
Il y avait plusieurs centres, mais ouais. Ici au Québec, il n'y avait pas. Aucune réglementation, là. Il y avait
aucune réglementation.
Et c'est ça qui était, c'est ça qui est, parce que.
Et pour dire, c'est pour ça qu'en 75, nous avons fondé le mouvement pour les chiens guides. C'est un mouvement qui ratissait assez large, mais en réalité, comme ça arrive souvent, il y a deux personnes qui s'en occupaient. Il y avait un grand ami à moi à l'époque, et même si ça fait longtemps que je l'ai vu, j'espère qu'on est grand ami encore, Michel Langlois, à qui je dis bonjour s'il nous écoute.
Ça serait le fun qu'il nous écoute.
Ça serait le fun, et qu'il donne des nouvelles.
Ben oui.
Et il y avait moi.
OK.
Alors, on a entamé une bataille qui a duré 5 ans, à peu près, 4 ans. Pour obtenir une modification à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
C'est pas que la petite affaire, là.
Non, ce fut une grosse affaire.
S'attaquer à ça, là.
La Charte des droits, en son article 10, énumère les motifs interdits de discrimination. On peut pas faire de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'état civil, les opinions politiques, ou la condition sociale, et ça s'arrêtait là. Nous, ce qu'on voulait faire ajouter, puis là, moi, j'étais en pleine étude à la faculté de droit, alors j'ai sorti mes grands principes, évidemment, et on voulait faire adopter que la discrimination serait également interdite lorsqu'elle est fondée sur le handicap ou quelques moyens pour y pallier. Alors, c'est en 78-79 qu'on a obtenu gain de cause et ça a été fait. Évidemment, je peux pas vous raconter tous les détails de ces 4-5 ans-là parce que là, on partirait pour un autre 3 heures.
Là. Mais là, vous avez obtenu ça, mais tu peux sûrement nous dire un peu l'application de ça. Ça a eu quoi comme... ça n'a pas dû se faire ça n'a pas dû se faire comme ça du jour au lendemain. Là.
Ben, c'est-à-dire qu'une fois la modification à la charte obtenue, il a fallu la faire connaître. Et remarquez ici... que la manière dont nous avions formulé notre demande, ça ne s'appliquait pas qu'aux utilisateurs de chiens guides, ça ne s'appliquait pas qu'aux handicapés de la vue, ça s'appliquait à tous les handicapés. Et quelques moyens pour pallier leur handicap. Ça peut être... quelqu'un dit « Je te refuse pas parce que tu es en chaise roulante », mais je refuse ta chaise roulante.
Ouais.
Ben oui.
C'est
ben
joué beau, avec ça. Les mots, là.
Ben oui. Fendre les cheveux en quatre de même, là, pour refuser quelqu'un, faut le faire. Mais là, avec la formulation qu'on avait, pouvait plus faire ça. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes début 2018, ça fait donc ça fait longtemps, ça fait presque 40 ans que ça a été fait, ça. Mais encore aujourd'hui, la Commission des droits de la personne, qui est chargée de l'application de la charte, 35% des plaintes qu'ils reçoivent sont fondées sur cet amendement-là. Et pourtant, dans la Charte des droits, l'article 10 dont je parlais tantôt, il y a peut-être 12, 15 motifs interdits de discrimination. Mais celui fondé sur le handicap ou l'utilisation de quelques moyens pour y pallier, 35% des cas. Mine de rien, ça, même aujourd'hui, ça me fait un petit velours d'y penser.
Quand même, hein, parce que...
Ça a été utile.
Ben oui.
C'est ça qu'il faut se dire, hein.
Mais il y a encore du travail à faire.
Ben, il y a encore du travail à faire, puisqu'il y a 35% des plaintes. Forcément, il y a un peu de travail à faire, oui.
Mais là, je sais que je vais faire des sauts immenses, puis tu me ramèneras là, si je vais trop vite, trop loin.
Inquiète-toi pas.
Parce que moi, je t'ai connu plus au RAM... à l'époque où tu étais comme moi là sur le conseil d'administration, mais je sais que tu as fait un paquet d'autres choses parce que je me souviens qu'à une époque tu enregistrais des rubriques sur le Publifone, hein, des rubriques juridiques et tout ça. Ça, je me souviens de ça, j'écoutais ça. En tout cas, des bouts, là, probablement pas dans l'entièreté. Tout ça.
J'ai fait ça sur le Publifone du RAM à l'époque, là, oui. Où il était plus développé qu'il ne l'est aujourd'hui.
Ouais.
Puis j'ai fait ça aussi à la Magnétothèque.
Ah, OK.
Qui avait le magazine cassette de la Magnétothèque. C'est une cassette qui était publiée...
Oui, il nous envoyait ça.
Une fois par mois.
Oui.
Et il y avait là-dessus des articles qui étaient lus et qui avaient été pigés dans un magazine ici, un magazine là, un autre, un magazine européen. Et ça c'était lu, mais il y avait une chronique originale, maison, c'était la chronique juridique.
Et c'était toi qui...
C'était moi qui faisais la recherche, c'était moi qui l'écrivais, puis c'était moi qui la lisais.
OK. Ça, tu lisais ça en cabine à la Magnétothèque?
En plein ça.
OK.
Ouais.
Hmm.
Je vais te raconter une histoire.
Oui.
Encore une petite minute.
On n'est pas une minute près.
En 75, je vais chercher mon premier chien guide à Long Island, New York. Et c'était en été. J'avais fait une première année en faculté de droit. Alors, je reviens à la faculté de droit pour ma deuxième année. Et les cours de droit, ça se donne pas dans des salles de classe comme on a l'habitude. C'est des amphithéâtres parce qu'il y a peut-être 250 étudiants là-dedans. Là.
Aïe, aïe.
C'est que c'est des amphithéâtres. Fait que là, moi, j'entre dans l'amphithéâtre avec mon chien guide. J'étais bien fier de mon coup. Fait que là, je monte une marche, deux marches. Je voulais pas être assis tout à fait en avant, mais pas en arrière non plus. J'arrive à la troisième marche. Puis là, j'avais développé des habitudes. Je mets ma main sur le bord de la longue table qui traversait toute la salle. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Puis là, il y a quelqu'un dans le deuxième siège qui me répond, non, il n'y a personne, vous pouvez vous asseoir. Fait que là, je m'installe, je mets le chien en dessous de la table, je le place, je place sa laisse, tout ça. Puis là, je me mets à démêler toute mon électronique. Puis là, le même personnage qui était maintenant assis à côté de moi, il me dit, vous avez un beau chien, monsieur. Ah, je dis merci beaucoup. Et j'ai dit, au fait, est-ce que ça se peut que je reconnaisse votre voix? Mm. Ah, il me dit, elle est assez connue, mon nom est Raymond Charrette. Il était en année sabbatique et il avait décidé de faire des cours de droit.
Mm. Et tu te ramasses assis à côté de lui?
Je me ramasse assis à côté de lui.
Complètement par hasard.
Complètement par hasard. Bon, au fil de l'année, il m'a fait des lectures. J'ai tout perdu ça depuis, parce que au fil des déménagements, on perd des bobines, puis des cassettes, puis etc. Mais plusieurs années plus tard, vers quoi, 83, 84, 85, quelque chose comme ça, je me retrouve sollicité par la Magnétothèque pour faire une chronique juridique. Et qui dirige le magazine cassette de la Magnétothèque? Raymond Charrette.
Quel hasard!
Ouais, l'animateur d'Atomes et Galaxies, ça rappellera des souvenirs à des gens, et l'animateur aussi de Tous pour un.
Oui.
Puis de toute façon, c'est un personnage de Radio-Can qui était admiré de tous.
Mm-hmm. Avec une voix...
exceptionnelle. Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Et là, de quoi tu veux qu'on parle?
Ben là, on en était rendu au Publiforme du RAM, mm-hmm. là, où je faisais des chroniques juridiques. Oui, c'est bien le cas. Et j'ai fait ça pendant... 2 ans, je pense. Et puis plus tard, il y a eu un le RAM avait obtenu une subvention là, et il y avait un poste d'ouvert. Il savait même pas comment l'appeler, ce poste-là. Moi, je leur ai suggéré communicateur juridique. Alors, j'ai été embauché comme communicateur juridique. Et j'ai travaillé au RAM pendant 2 ans là-dessus. Là.
OK. Et là, ça consistait en quoi?
Ça consistait à faire des recherches.
OK.
À produire des articles. Parce que le RAM avait à l'époque un bulletin écrit périodique là, qui s'appelait le RAMEMO.
Oui, ça me dit quelque chose.
Ouais, ouais, ouais.
Oui, oui, oui.
Et puis, il fallait alimenter le Publifun également. Et en plus, j'organisais des conférences, genre une fois par 2 ou 3 mois, sur divers sujets. Je me rappelle qu'il y en a eu une sur les testaments et mandats en cas d'inaptitude. Il y en a eu une autre sur les différents régimes matrimoniaux, parce qu'aujourd'hui, ça se peut que les gens éprouvent des problèmes matrimoniaux des fois, ça fait que, tu sais, quand on se marie, on n'a pas besoin de contrat de mariage, mais quand on se sépare...
Là, tout se complique.
Là, c'est bien inutile d'avoir un contrat de mariage, alors j'ai fait une conférence là-dessus, et d'autres...
Sur des sujets là qui pouvaient...
toucher les gens directement.
C'est ça, exactement. OK.
Parce que j'allais pas leur faire une conférence sur le droit constitutionnel au Canada.
Non.
J'aurais eu 2 personnes, là, peut-être. Alors que, quand sur les autres sujets, on faisait des conférences, il y avait facilement 100, plus de 100 personnes dans la salle.
Il y avait des grosses participations. Hein?
Ah oui, 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 c'est pas comme aujourd'hui. Non. On a des assemblées un peu...
quasiment au minimum.
Un peu légères, là, où on se demande toujours s'il va y avoir quorum.
Dans le cas des assemblées, puis si les activités vont être tenues dans le cadre de d'autres sortes d'activités.
Oui, c'est ça. Mais à l'époque, on n'avait pas ce problème-là.
Non, c'était plutôt l'inverse. C'était être capable de d'asseoir tout ce monde.
Il est arrivé qu'on se soit inquiété une fois, parce qu'il y avait tellement de monde, on n'était pas sûr qu'on était...
légal au niveau de...
La capacité de la salle. De la salle. Là, j'aurais pas aimé voir un pompier arriver là. Là. Mais ça, c'est un beau problème.
Ben oui,
honnêtement,
c'est mieux gérer ça que de tout le temps être annulé comme tu dis, pour avoir le quorum pendant une AGA, c'est...
Gérer le trou de fréquentation,
oui.
C'est un beau problème, ça.
C'est un... Oui. Et là, maintenant, c'est ça. C'est plus l'inverse.
C'est plus l'inverse aujourd'hui.
Est-ce que tu as une piste de réponse pour expliquer ça?
Ben, premièrement, il y a le nombre d'organismes de handicapés de la vue qui existent actuellement. Moi, quand j'ai perdu la vue, c'est pas compliqué. Il y avait l'INCA, l'Institut Louis Braille, puis l'Institut de Nazareth, et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de RAC, il n'y avait pas de RAM, il n'y avait pas d'Association des sports pour aveugles de Montréal, il n'y avait pas d'Association sportive des aveugles du Québec, il n'y avait pas de...
Il n'y avait pas de magnétothèque.
Il n'y avait même pas de programme des aides visuelles. Il n'y avait rien. Aujourd'hui...
Fait que de pas beaucoup de choses, on est passé à peut-être trop de choses?
D'une certaine manière, oui. Je regarde seulement, mais là, c'est une réflexion bien personnelle et un peu philosophique de la part de quelqu'un qui a toujours été dans l'organisation communautaire. Je regarde les organismes de loisirs, par exemple, rien qu'à Montréal. Il y en a 5-6.
Oui, en effet.
Chacune de ces organisations-là a besoin d'un conseil d'administration de 5 à 7 personnes. Ça fait beaucoup d'administrateurs, ça, qui...
Ça demande beaucoup de ressources.
Qu'il faut recruter.
Mm-hmm.
Et dans une population qui n'est pas si nombreuse que ça, là, les handicapés de la vue, on n'est pas si nombreux que ça. En réalité, on demande à la communauté des handicapés de la vue de produire plus d'administrateurs que n'importe quelle autre communauté. Alors, ben, des fois, ça fait des conseils d'administration qui fonctionnent plus ou moins, puis le reste suit.
Et le fait d'avoir beaucoup d'offres fait en sorte que les activités vont être plus ou moins fréquentées et plus ou moins...
Ouais, c'est ça. Maintenant, je regarde un peu les organisations, je dirais, à caractère politique, là, politique avec un P minuscule, là, évidemment.
Mm-hmm.
Ils ont de la difficulté à atteindre leur population. Mais, aussi curieux que ça puisse paraître, les organismes de loisirs, qui sont très nombreux, on le disait il y a quelques instants, eux, ils ont moins de misère. Pourquoi? Parce qu'ils joignent la partie plate d'une assemblée générale à une partie agréable où, après l'assemblée générale, ben c'est le party
pour tout. Il y a un souper, il y a une autre activité qui vient comme attirer un peu le...
C'est ça.
Mm-hmm.
Moi, je pense que les organismes à caractère politique, avec un petit P, devraient s'inspirer de ça un peu. Je pense.
Voilà. Ben, c'est une belle opinion. Moi, je trouve que c'est une belle philosophie que certaines personnes
ben, devraient c'est parce que j'ai travaillé dans ces organismes-là aussi. Beaucoup, là. Ben, autant du côté des sports que du côté d'art. Je vais avoir une bonne nouvelle à raconter à tout le monde, là. Mais, donc, du côté des loisirs, des sports, du côté politique également. Puis moi, je trouve ça triste que nos organisations politiques, qui ont fait beaucoup pour notre milieu, se retrouvent un peu en panne. Et moi, si je peux contribuer un peu à formuler des solutions, moi, c'est ça que je recommanderais. Maintenant, la bonne nouvelle, et ça, les...
Ah, attends, on va... On va faire la pause, OK?
Ouais.
Et puis après la pause, on parle de...
On parle des bonnes nouvelles.
Oui. On parle un petit peu des mauvaises, puis beaucoup des bonnes.
Ben,
des
beaux.
On va parler un petit peu, si tu le permets, du RAM, un petit peu du RAC, parce que tu y as travaillé.
Ouais, 5 ans.
Puis je pense que tu as fait...
Ah, plus des que 5 ans.
Ben oui. Ouais. Puis tu as fait des bonnes choses aussi. Puis j'ai une question qui tue, puis la bonne nouvelle pour finir.
Bon, alors, à bientôt.
OK, alors on fait la pause, on revient avec notre invité, qui est Gérald Miller.
Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues.
Bienvenue à la pause de l'entrevue. Comme nous sommes début janvier, quel beau moment pour prendre des résolutions et bien sûr essayer de les tenir. C'est pourquoi je vous en propose une qui, à mon avis, est facile à tenir, surtout pour les personnes qui tiennent au braille abrégé. Je vous fais donc la lecture d'une lettre que j'ai reçue un peu avant Noël et qui a comme objet « Que diriez-vous d'une petite offensive pacifique ?» Bonjour à toutes et à tous. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que, parmi mes contacts courriels, j'ai choisi d'inclure dans ma nouvelle liste de distribution, baptisée Groupe Braille, tous ceux et celles que je crois utilisateurs de Braille convaincus. Je souhaite vous proposer une action toute simple, ayant pour but de montrer que nous tenons au Braille abrégé. La plupart d'entre vous n'êtes pas sans savoir que depuis longtemps, je suis préoccupé par l'évolution du braille au Québec. Plus le temps passe, plus je crois que, pour toutes sortes de raisons, dont non la moindre me semble être un double malentendu quant au rôle des technologies numériques, nous nous acheminons vers une désalphabétisation progressive des aveugles. Nous sommes tous et toutes des produits d'une éducation en braille. Tous et toutes, nous avons réalisé des études et occupé des fonctions que nous n'aurions pas pu occuper de façon aussi efficace sans le braille abrégé. Certains d'entre nous ont déjà fait et font encore énormément pour promouvoir le braille, notamment auprès des jeunes, et méritent toute notre admiration. Or, malgré ces efforts, que constatons-nous? Qu'à l'école Jacques Ouellette, par exemple, on est actuellement en train de se départir du braille abrégé, tant au niveau de son enseignement qu'au niveau des collections de bibliothèques. Qui plus est, même BANQ songerait à ne plus acquérir de titre en braille abrégé. La chose est encore au stade de rumeur, mais une rumeur persistante à laquelle il nous appartient de donner tort. Comme je ne possède ni l'expérience ni l'expertise pour me prononcer sur les méthodes d'enseignement utilisées actuellement dans les écoles, ce qui ne m'empêche pas d'avoir ma petite idée sur le sort désormais réservé au braille comme outil d'accès au savoir, à la culture et aux loisirs, et bien que la menace me paraisse plus lourde de conséquences pour les jeunes que pour nous, qui avons largement profité du braille et saurons continuer à le faire sous tous les formats possibles, je considère que je n'ai pas la crédibilité voulue pour lancer une action au niveau de l'éducation. Mais je peux essayer de déclencher un mouvement à ma modeste mesure, faisant en sorte que la rumeur à BANQ ne se change pas en réalité. Récemment, je suis intervenu à diverses occasions à titre individuel auprès des autres instances de BANQ à l'effet qu'aucune nouveauté braille n'avait été annoncé dans le site du SQLA entre juillet et octobre 2017. Or, malgré des réponses de fonctionnaires, je sens que nous pourrions maintenant susciter une certaine écoute si nous nous manifestions de façon convaincante et positive, car il y a eu progrès depuis ma dernière intervention. Une brèche nous est offerte dont nous devons maintenant profiter. En effet, si vous allez dans le site du SQLA, à la page « Liste des nouveautés », vous verrez qu'on a remplacé les pages mensuelles de nouveaux titres braille et sonore par une présentation offrant plus de choix quant aux médias offerts. Vous y trouverez notamment un lien intitulé « Livre braille en ligne » à partir duquel vous pouvez désormais télécharger directement les nouveautés en braille numérique. Ce qui m'amène à ma proposition d'offensive pacifique, que ce soit à partir des nouveautés ou via la recherche avancée du catalogue SQLA, si chacun d'entre nous se faisait un devoir de télécharger ne fût-ce qu'un titre en braille abrégé par semaine, je crois que ça enverrait un message clair quant à la nécessité de continuer à acquérir de nouveaux titres dans ce format. Bien sûr, il y a d'autres actions à mener, notamment, je parlais plus haut d'un double malentendu touchant les technologies numériques, malentendu qui a cours notamment dans les sphères de pouvoir appelées à influer directement sur l'avenir de la production et de l'enseignement du braille. Il y a ceux qui croient qu'elles, on change de page, excusez-moi, remplacent bonnement, tout bonnement le braille dans son existence même, alors que d'autres, munis de la pensée magique, refusent de comprendre qu'il ne suffit pas de numériser des fichiers pour obtenir un braille de qualité. Un énorme travail de sensibilisation en perspective pour les groupes de défense des droits et les spécialistes en production braille. Ils consentiront peut-être à le faire si nous les poussons dans le dos par des actes démontrant que nous tenons au braille, en l'occurrence au braille abrégé, sur papier ou en ligne, seul garant d'un véritable plaisir de lire. L'action que je vous propose, d'ordre privé, est à la fois concrète et accessible à tous ceux et celles qui possèdent un ordinateur avec plage tactile ou un preneur de notes. N'hésitez donc pas à vous joindre à ma petite offensive pacifique et à la partager avec d'autres lecteurs de braille parmi vos connaissances. Bonne lecture, et c'est signé Michel Brûlé, rebelle pacifique. Alors voici, on y est parvenu, c'était quand même une assez longue lettre, et bien sûr, je vous invite à y participer si vous croyez que ça peut faire une différence dans le maintien du braille abrégé.
À notre prochaine émission. Carole Marchand.
Voici le genre d'incident qui peut se produire lorsque l'on se retrouve dans un groupe de personnes privées de la vue, mais avec des tâches de la vie quotidienne à accomplir.
On allait chercher la collation. Et là, on échappe, tu sais pas.
Oh non.
La cruche de jus. Et là, on voyait la cruche débouler l'escalier, le jus s'enverser. Mais on faisait rien, on riait. On n'était pas capable de s'empêcher de rire. Fait que là, à un moment donné, bon, coudonc, il y a une sœur qui est arrivée et elle dit « Vous avez l'air intelligente! » Oui! Elle dit « Comment vous avez fait? » Ben, coudonc, elle nous a parti des mains, c'est lourd, ça. Puis on n'avait pas le droit de prendre l'ascenseur. Fait qu'il fallait monter ça du premier au quatrième.
Oh boy! Moi!
C'était comme un petit peu lourd.
Les chances de l'échapper étaient quand même...
Elles étaient quand même grandes, là, tu sais.
Nous sommes de retour avec notre invité qui est Gérald Miller, et avant la pause, on disait, bon, on va parler du RAM, on va parler du RAC, et on va parler de l'Association des sports pour aveugles de Montréal, parce qu'on a, comme on disait, une nouvelle qu'on a su juste avant Noël, dans le fond. Gérald, le RAM, on peut peut-être faire vite.
J'ai travaillé au RAM en 83-84 comme DG intérimaire. Et il est arrivé pendant, j'ai été là 15 mois, pas ben, ben plus que ça.
Okay.
Et il est arrivé pendant ces 15 mois-là que le rack, qui était dans le bureau d'à côté, au moins ça c'était commode, perd son directeur général. Alors pendant 6 mois, j'ai dirigé les deux organismes en même temps.
Wow! OK. Mais du temps qu'il était côte à côte dans la même bâtisse.
C'est ça.
OK.
Mais en même temps, j'enseignais à plein temps à la CECM.
Oh là là, OK.
Ça faisait des semaines un peu occupées, je dois dire.
Ouais, quand même, là, beaucoup.
Par la suite, je suis revenu au RAM dans les années 90 comme communicateur juridique, comme on le disait.
Uh-huh.
Et puis, en 2007, je suis devenu directeur général du RAM à titre intérimaire pour un an.
Et, bon, suite à ça, le RAC, parce que...
J'ai quitté le RAM pour toutes sortes de raisons, on n'est pas obligé de donner les détails, là. Et puis, je suis revenu pendant quelques années à quelque chose qui m'a toujours sauvé, c'est-à-dire... vendre des services d'écriture.
Ah, OK.
Les gens pouvaient me donner 3-4 idées, puis moi, je leur écrivais un document à partir de là, puis ben, je me faisais payer, là, puis bon, c'est comme ça que ça marchait. En 2011, on m'appelle, puis on me demande, le RAC a plus de directeur général, est-ce que ça t'intéresse? Ben, j'ai dit, ben oui. Fait que là, je suis revenu au RAC. Et je suis resté là 5 ans. 5 années dont je suis assez fier, parce qu'on avait tournipé les locaux, on avait rebâti un système informatique ultra-moderne, puis, mine de rien, on avait doublé le budget.
Hey, doublé le budget dans les...
Dans ces années-là.
Dans ces années-là, c'était loin d'être rien, là.
C'était pas évident, mais en tout cas, je suis assez heureux de ça.
Et là, bon, tu n'es plus directeur général?
Non, je suis parti en 2016, début 2016, là. Et ben maintenant, je suis à la retraite. Je fais de petits contrats à l'occasion. Incidemment, s'il y a quelqu'un là qui nous écoute, qui a des petits contrats à donner dans mes domaines de prédilection, là, gênez-vous pas là.
Oui, parce que Gérald, il fait aussi le président d'assemblée là, dans des.
Je préside beaucoup d'assemblées. Oui. Je fais la révision des règlements généraux, etc. Mais ça, c'est dans le domaine du droit. Mais je peux faire plein d'autres affaires aussi.
Mm-hmm.
Si vous avez une lettre d'amour à écrire, vous pouvez faire appel à moi. Il n'y a pas de problème. Je vais trouver les mots.
Mais moi là.
Mais là, depuis que je suis à la retraite,
oui.
Je me suis intéressé à l'Association des sports pour aveugles de Montréal.
Je voudrais juste te poser une question, plate, avant. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas l'expérience de Gérald sur les conseils d'administration, mais j'en ai fait quand même assez à un moment donné pour comprendre un peu comment ça se passait et tout et tout. Puis là, je veux pas qu'on lance de pierre à personne, là. Mais je te pose une question, puis libre d'y répondre ou pas. Si tu y réponds pas, je la couperai au montage. Mais...
Tu vois comme tout le monde en parle.
Même si c'est pas dans mes habitudes. Mais, tu sais, j'ai connu, au RAC, j'ai connu 2-3 DG quand même. Et moi, j'ai toujours trouvé que la population, en général, était dure envers les DG.
Terrible.
Et les gens ne se battent pas aux portes non plus pour avoir ces postes-là. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Gérald?
Moi, je pense que les gens sont très durs envers les DG, que quelquefois on considère comme un esclave, quelquefois on considère comme un punching bag. Puis ça, je l'ai pas vécu seulement au RAC et au RAM, mais ailleurs, ça, ailleurs aussi. Là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ben, c'est comme l'entraîneur du Canadien, hein. Quand l'équipe performe pas, on change d'entraîneur. Performe pas plus après, mais c'est pas grave. Ben, les DG, ben, c'est souvent comme ça. On se fait limoger à un moment donné. Puis après ça, ben, l'organisme périclite, plus que jamais. Fait que, bon.
Ça vient avec les, ça vient comme dans le contrat de travail, ça va.
Ben, c'est jamais écrit de même. Non. Là. Mais faut se faire à cette idée-là. Les DG n'ont jamais eu une existence très longue. Et ceci pour une raison très simple, c'est qu'ils sont le cœur de l'organisme. Ils sont entre le conseil d'administration et le personnel. Mais ils sont aussi sollicités par tous les membres qui, des fois, connaissent mieux le DG que les administrateurs.
Mm-hmm.
Alors, tirailler de tout bord, tout côté, à un moment donné, tu manques d'heures, premièrement. Et deuxièmement, il faut à un moment donné que tu décides des choses, ça plaît pas à un, puis ça plaît pas à l'autre. Puis
c'est difficile, impossible même de plaire à tout le monde.
C'est impossible. Et quelquefois, les gens sont un peu rancuniers. J'ai toujours la ligne suivante. Oh, il me semble qu'il y a 22 ans, j'y avais dit bonjour. Il m'a répondu sec un peu. Fait qu'au bout de 22 ans, il en veut
les,
encore.
Les vieilles histoires
perdues. Les vieilles niaiseries, là. Ça arrive. Bon. Je suis en train de m'emporter. Il faut pas.
Mais allons vers la bonne nouvelle.
Vers la bonne nouvelle. La SAM a déjà eu un projet du secrétariat pour des aînés. Puis là, il y avait eu tout un problème avant l'administration précédente. Et le résultat, c'est que la SAM devait 39 000 $ au gouvernement du Québec. La SAM a payé 5 000, il en restait 34 000. Mais 34 000 pour une petite organisation comme celle-là, c'est énorme.
C'est beaucoup de sous.
C'est beaucoup de sous. Alors, on a formé un comité de 4 personnes, puis on a travaillé fort, longtemps, puis Jocelyne Durand, notamment, et Jocelyne Richard, ont également travaillé très fort, et le résultat, c'est que au mois de novembre dernier, novembre 2017, nous avons reçu une belle lettre du gouvernement du Québec disant que la dette de la SAM était effacée.
Wow! Et ça, c'est là, c'est rare qu'on on s'attend pas à avoir une lettre aussi positive, là.
C'est rarissime. C'est rarissime, mais on l'a obtenu.
Et c'est une très bonne nouvelle qui va permettre à l'association de pouvoir continuer beaucoup plus librement, puis de pouvoir...
Oui, puis je parlais de Jocelyne Durand tantôt, mais qui s'occupe notamment des finances de la SAM. Au fil des années, ben pas tant que ça, 3 ou 4, elle avait réussi à mettre de côté suffisamment d'argent pour rembourser le gouvernement si c'était nécessaire. Mais évidemment, on espérait tous que ce soit pas nécessaire, là. Mais là, quelle bonne nouvelle.
On avait le coussin au cas où.
On avait le coussin au cas où. Maintenant, on a le coussin entre nos mains. Parce que tout remboursement est effacé.
C'est vraiment une super bonne nouvelle. On en prendrait comme ça très souvent. Et là, toi, Gérald, depuis un certain temps, mais plus officiellement, je pourrais dire, depuis la dernière assemblée en juin, tu t'impliques à la SAM?
Je suis au conseil d'administration. Mm-hmm. Où je m'occupe essentiellement de deux aspects. Ben, premièrement, les affaires juridiques, on aurait pu le deviner. Mais aussi de produire des demandes de subventions, parce qu'au fil des années, j'ai quand même acquis un peu d'expérience là-dedans, là, faire des demandes de subventions. Alors, c'est les deux grands aspects dont je m'occupe, plus les petits détails et la poutine quotidienne là, d'un conseil d'administration.
Mais la rédaction de documents pour des demandes de subventions, ça, ça ne te fait pas peur?
La dernière que j'ai faite, c'est une demande de subvention au gouvernement fédéral. Le formulaire avait 21 pages qu'il fallait remplir au complet. C'était d'une complexité capable de décourager n'importe qui.
Sauf toi.
Je l'ai fait en deux jours.
Mais je suis sûr que tout le monde était super content de ça, parce que ça devait être
un... Ben, on va être plus content quand on va avoir la réponse en espérant que ce soit positif. Ça, c'est prévu pour mars de cette année, mars 2018.
Bon, c'est qu'on va se...
Peut-être qu'on aura une autre bonne nouvelle.
Une autre bonne nouvelle, financière, ben oui. Mais la SAM, c'est une bonne association aussi, c'est... Une association qui fait beaucoup, point de vue sport, point de vue... Puis tu sais, quand on dit sport, c'est pas... c'est tout des sports...
C'est pas compétitif.
C'est ça peut être la marche. Là,
ça peut être la marche, mais l'aquaspinning, l'aquaforme, le tandem, bien sûr, les randonnées pédestres... Puis il y a aussi des activités pour les plus jeunes comme moi. Je sais qu'il y a des affaires qui s'appellent le Zumba.
Je pense que c'est une espèce de danse.
Je sais pas, là, c'est moins de mon âge. Là.
Mais t'as pas été l'essayer?
Non, j'ai pas eu cette occasion-là.
D'accord.
Mais faut s'occuper de tout le monde, les plus jeunes et les plus vieux. Et tous ceux entre ces deux âges-là, c'est ce que c'est de faire la SAM. Alors, si ça vous intéresse de bouger un peu, question d'ajouter des années à votre vie et d'ajouter de la vie à vos années, ne vous gênez pas, venez à la SAM.
Et toi, Gérald, tu as ajouté beaucoup de contenu très intéressant à mon projet, qui est Connaissez-vous, et qui repart en force l'année 2018.
Ben, ça m'a fait plaisir, Martin.
Ça a été très agréable, ça a passé très vite. On aurait pu facilement faire beaucoup plus long, mais comme j'ai dit à Gérald pendant la pause, on va le réinviter si jamais. ça fera Gérald la suite dans un 6 mois, un an, on verra
bien. Version 2.0.
Version 2.0. Je vous remercie tout le monde à la maison de nous écouter, de nous écrire.
Et bonjour tout le monde de ma part.
Bonjour. De nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, c'est toujours très apprécié. Un gros merci encore une fois, Gérald. Et bonne semaine à tous. À une prochaine émission de Connaissez-vous. Merci beaucoup à tous.